4. Willet. En direct.
On est comme dans le tombeau, là.
Avec JC et Patricia.
Radio X.
Est-ce qu'on aura fini d'en parler avant la fin de l'année? Ou est-ce que c'est un sujet qui, même si on le règle, je le mets entre guillemets, continuera de faire jaser? Je veux pas nécessairement parler de ça, mais la Russie a des plans. Là. Depuis 2008 que la Russie grignote un peu d'un bord, de l'autre, des territoires partout autour. On sait que la Russie n'est pas très à l'aise avec l'encerclement de l'OTAN autour de son territoire. Et ben là, il y a le deal, le fameux deal. Et je suis content de l'avoir aujourd'hui pour en parler. Notre analyste en géopolitique et également grand mentor du média indépendant 7 jours sur Terre. Trouvez-le sur YouTube. Est-ce que le deal est bon? Est-ce que le deal sera accepté? Et est-ce que ce sera la fin? J'ai toutes ces questions-là pour toi, Benjamin Tremblay. Comment vas-tu?
Ça va très bien. Merci de me recevoir, JC.
Grand plaisir. Donc, écoute, je ne sais pas quelle réponse ou quelle question tu veux en premier, quel sujet tu veux aborder, parce que c'est un mono-sujet, mais qui a beaucoup de sous-sujets. Premièrement, est-ce que le deal est bon? Est-ce que le deal est passable?
Bien, ça a chialé énormément quand le deal est sorti. Il faut revenir un peu dans le contexte de comment tout ça nous est apparu. On n'était pas censé du tout avoir un regard sur les négociations. Il faut dire que c'est peu lunaire, la scène à laquelle on assiste en ce moment, où on a carrément l'entente noir sur blanc qui est négociée telle qu'elle. Les 28 points, on est capable de les énumérer. Puis ça, c'est pas censé se produire. C'est le résultat d'une fuite dans les médias, en fait. On a su que ce plan-là existait. Il y avait des rumeurs comme quoi il y avait des négociations relativement avancées et le plan a coulé dans les médias dans son entièreté. Et là, ensuite, il y a eu beaucoup de questionnements à savoir c'est quoi ce plan-là? Par qui ça a été écrit? Est-ce que c'est un plan russe? Est-ce que c'est le plan américain? On nous disait que c'était l'état actuel des négociations. Et c'était un plan qui a été dénoncé par à peu près tout le monde, là, que ce soit les Américains, les Européens, les Ukrainiens. Tout le monde disait ça me semble extrêmement favorable à la Russie.
Ça ressemblait un plan russe, là. C'est beaucoup.
Ça a été qualifié effectivement un peu le wish list de Vladimir Poutine, de ce qu'on aurait voulu pour condition pour mettre fin à la guerre, mais c'était naturellement des trucs qu'on aurait attendu de négocier dans le processus. Et là, les Américains immédiatement sont sortis dans les médias vraiment bizarrement pour affirmer c'est notre plan, c'est nous qui l'avons rédigé, mais là, ça venait de fuir dans les médias. Donc, on a l'impression qu'ils essayaient juste de sauver la face parce que quelques heures après, tu as eu des sénateurs américains qui étaient ici au Canada, ils étaient à Halifax dans une conférence de sécurité, puis ils sont sortis en disant, vous savez, nous autres, on vient de parler là, avec le secrétaire d'État Marco Rubio, on était inquiets, on lui a parlé de cette entente-là et il nous a rassurés. Il nous a dit, inquiétez-vous pas, c'est pas notre position, ce sont les points qui ont été proposés par les Russes et c'est le début de la négociation. Et partez pas en peur avec ça. Et immédiatement après sa sortie publique de sénateur, Marco Rubio est sorti sur Twitter pour dire « Non, 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 il dit n'importe quoi, c'est nous autres qui a écrit ça. » Fait que là, on est encore à essayer de savoir exactement c'est quoi l'historique de ce document-là. Une chose est sûre, puis ça même les Américains le reconnaissent, ça a été écrit avec une collaboration active, un input de la part de la Russie où on a fait des propositions. Et semble-t-il, quand on examine ce document-là, c'est un peu aussi le chat sort du sac, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de points, particulièrement dans la version américaine, qui sont carrément du russe traduit. La manière que la phrase est formulée, c'est même pas, ça marche même pas en anglais. Ça a été une phrase en russe qui a été traduite. On le voit dans la formulation, en structure. Fait que ça, c'est le genre de choses qui a mis la puce à l'oreille à plusieurs. Fait que immédiatement, quand ce plan-là sort, c'est critiqué. Et les Européens, de leur côté, ils se mettent en mode panique. Ça allume rouge partout à Bruxelles et partout dans la capitale européenne. Et on se met à ce moment-là à écrire leur propre version d'un plan. On dit, on prend le plan des Américains, les 28 plans, et on a apporté un certain nombre de modifications. On a biffé complètement un certain nombre de points et apparemment que ce serait cette version à partir de laquelle on travaille actuellement. Maintenant, je vais être très clair, là, j'ai fait l'analyse de ces deux documents-là comparés dans les revues de presse puis dans les émissions. D'ailleurs, on a une analyse comparée qui vient juste de paraître dans les dernières minutes à chaque jour sur Terre où je reviens en détail sur tous ces points-là. Puis il faut le mentionner, même la version européenne qui est beaucoup modifiée reste quand même très favorable à la Russie.
Mais Benjamin, je t'interromps une seconde. Parce que, est-ce que... Ouais. Là, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui aimeraient ça que le plan, ce soit la Russie s'en va, elle se retire, ouais. elle redonne toutes les régions à l'Ukraine, elle donne la validation à l'Ukraine pour embarquer dans l'OTAN et elle peut se constituer une armée de 2 millions de soldats. Tu sais, puis là, rajoute-en, puis elle doit de l'argent ouais. à l'Ukraine, puis il faut qu'elle... Tu sais, quand tu négocies, surtout avec les Russes, il faut que tu lâches du lest. Là. Tu peux pas juste dire on va gagner sur tous les fronts. Tu sais, la Russie est là, est en guerre. Elle a encore attaqué hier. Elle n'arrête pas. Là. Les opérations militaires sont, ouais. pas, sont pas arrêtées. Tu sais, il faut pas fabuler non plus que la Russie va se retirer en s'excusant. Tu sais, il va falloir leur donner du nanane.
T'as absolument raison. Puis l'observation que tu viens de faire là, JC, c'est une observation plus intelligente que ce qu'on a vu dans diplomatie pour ce qui est de cessez-le-feu depuis les deux dernières années. Parce que t'as absolument raison. L'observation sur le terrain, c'est que la Russie a l'avantage militaire. On peut être pour, on peut être contre, on peut être fâché, on peut être heureux. La réalité, on ne peut pas la changer. Et ça, d'ailleurs, même les Américains, là, on est en train d'avoir une discussion qui, dans le fond, c'est sûr, c'est fâchant pour l'Ukraine d'avoir une entente de paix qui est une entente de défaite.
Ouais.
Mais c'est parce qu'ils ont perdu. Une guerre qui a été perdue, on ne peut pas s'attendre à ce que la Russie fasse des concessions comme si eux avaient porté la défaite. La vérité, c'est que la Russie a gagné la guerre au sens militaire et stratégique de la chose. Je suis pas en train de dire que ça n'a pas été un sacrifice énorme au sens humain, économique, politique, stratégique. Je suis pas en train de dire que la Russie n'a pas payé un énorme coût pour ça. Mais quand on fait un comparatif très simple entre qui a gagné cette guerre, c'est clair que c'est la Russie. Donc, on doit s'attendre à ce que l'entente de paix, le cessez-le-feu, reflète tout ça. Puis la question en ce moment, notamment, là, qui embête énormément, tu fais bien le mentionner quand on parle de la grosseur de l'armée, garantie de sécurité, mais notamment la question des territoires. Quand on nous parle de Donetsk, Luhansk, comment on va organiser ces territoires-là, c'est absolument normal que la Russie obtienne ce qu'elle convoitait dès le départ si effectivement elle est à l'offensive actuellement puis qu'elle avance. Et là, les analystes américains, ce qu'on entend dans les coulisses, ils nous disent, ben vous savez, avec la chute récente de Pokrovsk, une ville majeure qui vient de tomber ouais. dans l'est de l'Ukraine puis qui ouvre la porte vraiment à pousser de la Russie, les analystes américains disent, ça regarde vraiment mal, là. Et si on est effectivement devant un scénario où l'armée ukrainienne va juste reculer pendant un an et demi encore, si c'est pas deux puis trois ans, à coup de perte monumentale, alors aussi bien juste signer en bas de la feuille puis arrêter ça maintenant. Ouais. Et c'est ça que les Ukrainiens, naturellement, sont pas très à l'aise, mais il vaut la peine de le dire, là. Puis ça, c'est exceptionnel. Puis bon, il faut rendre à César ce qui lui revient, c'est tout à l'honneur de Donald Trump. On n'a jamais été aussi proche d'une entente de paix depuis le début. Jamais depuis le début de la guerre, l'Ukraine n'a accepté dans son essence, dans une entente, dans son principe. Et c'est sûr qu'il y a des détails à négocier, c'est sûr qu'il y a des trucs qui vont accrocher encore, mais on est vraiment en ce moment dans la ligne, dans le sprint final. Tu sais, pour donner un exemple, la première version américaine disait « L'armée ukrainienne va être capée à 600 000, plafonnée à 600 000 hommes en temps de paix. » Les Européens ont regardé ça et ont dit « Ouais, 800 000. » Après ça, on a dit, par exemple, bon, ben on veut une amnistie totale pour tout le monde. Les Européens ont dit, ben il va y avoir peut-être des réparations au cas par cas, etc. Fait qu'on essaie vraiment d'essayer de créer des conditions qui ne sont pas humiliantes pour l'Ukraine. Mais je pense que tout le monde est au courant que c'est une guerre qui a été perdue. Puis tu fais bien de le mentionner, on ne peut pas être irréaliste. Et beaucoup du statisme, de l'immobilisme puis de l'enlisement qu'on a vu dans les négociations de ce cessez-le-feu dans les deux dernières années, ça a été largement dû aux exigences puis aux revendications maximalistes de l'Ukraine qui disait, comme tu le disais tantôt, faut sortir. Non seulement on veut récupérer tous nos territoires, on veut expulser les Russes, on veut des réparations, on veut rejoindre l'OTAN. Tout ça, c'était pas réaliste et c'était un non-starter pour la négociation.
Mais on nous a fait croire que ça l'était. C'est peut-être ça le problème parce que il y a encore des gens qui m'écrivent puis il y a des gens qui disent ben oui mais les Russes comment ça ils ont pas déjà gagné. Ils avaient dit ça se réglerait en trois jours. Ben c'est à cause de nous autres. C'est parce que les Américains, sous Joe Biden, l'Union européenne au grand complet fournit des armes, fournit du matériel, de la logistique, des drones, des missiles. Parce que si c'était pas ça, effectivement, probablement que Moscou serait rentré là-dedans en une semaine.
Ah oui. Et puis, il y a aussi un autre comparatif qu'il ne faut pas qu'on néglige. C'est que la Russie est d'une envergure gigantesque, puis son effort de guerre n'est pas comparable actuellement seulement à celui de l'Ukraine. L'Ukraine est mobilisée jusqu'au fond de la société civile. Chacune des entreprises, l'économie au complet est devenue une économie de guerre. On a une conscription à partir de 25 ans. On parle de potentiellement la reculer à 18. Écoute, c'est une mobilisation entière et totale. Si tu vois, du côté de la Russie, c'est à peu près l'équivalent là, de comparer un gros V8 qui monte sur l'autoroute à 2000 tours contre une ZZ qui, elle, est bien au fond, le moteur sur le bord de sauter.
Ben oui, ça claque.
C'est sûr, c'est facile de regarder ça puis se dire que la Russie, ouais, mais là, ça a pris 3 ans. Ouais, mais ils n'ont même pas encore activé de conscription. L'économie de la Russie est loin d'être sur un pied de guerre. La Russie a beau être isolée économiquement, elle est loin d'avoir mobilisé... En fait, tu pourrais être à Moscou puis pas être au courant qu'il y a une guerre, là. Ce serait pas... beaucoup de Russes la vivent pas du tout, cette guerre-là. Ils voient de leurs proches qui vont aller combattre, qui vont y aller largement pour les bonus, pour les salaires. Il y a personne qui est tiré des rues pour aller se battre au front, comme on le voit en Ukraine. Fait que ça, il est important de le considérer aussi. On se dit, ben là, ça fait 3 ans que la Russie... Ouais, mais la Russie est en train de faire quelque chose qu'on avait vu depuis le début. C'est une stratégie de Poutine qui avait clairement affiché, qui était « wait out the West ». D'attendre que l'Ouest s'écœure. Ouais. Pourquoi embarquer avec la grosse conscription puis faire chier tout le monde en Russie? Pourquoi essayer de clocher ça en 2 ans puis mobiliser l'économie russe au complet? Quant à ça, on va wait out the West. Ils vont finir par se tanner, puis c'est exactement ce qui s'est passé. Il est arrivé un autre président Trump, qui n'était pas aussi mobilisé par la cause ukrainienne, qui voulait que ça se finisse, qui était prêt à abandonner le financement. Les Européens, la situation économique a changé. C'est plate de le dire, là. On va regarder avec le recul, en rétrospective, 2, puis 5, puis 20 ans après. Mais en ce moment, tout indique que Poutine a gagné. Sur toute la ligne. Puis il y a un élément en passant là-dedans, là, dans cette entente de paix, que moi je trouve c'est vraiment ça le victory lap ultime de Vladimir Poutine. C'est le closing statement qui vient prouver que la Russie a gagné sur toute la ligne. C'est qu'on a un point, en fait, je vais juste être certain que je ne te dis pas n'importe quoi, comment il a été formulé, mais on a un point écrit noir sur blanc qui nous dit « La Russie sera réintégrée dans l'économie mondiale. »
Ouais.
Tout simplement.
Ah oui.
La Russie sera réintégrée à l'économie mondiale. On parle d'une Russie, écoute, qui était largement sous sanction. On nous disait jusqu'à là, 6 mois, là, jamais, ça, du moins pas tant que Poutine sera au pouvoir, qu'on attendrait peut-être après le passage de Poutine, il y aurait une normalisation, un retour des relations avec la Russie. Puis là, ben, manifestement, la Russie va avoir non seulement une normalisation entière, mais tu as même un point encore une fois là-dessus, où on dit carrément, on va avoir un deal commercial avec les États-Unis pour wow. devenir des partenaires économiques et bababa. Écoute, moi, je me demande qu'est-ce qu'elle a fait, la Russie, pour mériter ça. Ça fait 2 ans qu'il rit des États-Unis, 1 an qu'il rit d'en face de Donald Trump, alors qu'il était prêt à avoir un cessez-le-feu. Oui. Je trouve les Américains extrêmement généreux en ce moment.
Effectivement. Bonne analyse. Merci beaucoup, Benjamin. Toujours plaisant. Et puis, tu l'as mentionné tantôt, moi, je dis 7 jours sur Terre, mais il y a aussi la plateforme Chaque jour sur Terre, qui sont 2 choses séparées. Chaque jour sur Terre, réexplique-moi, c'est plus condensé un peu, hein, c'est ça?
Plus condensé. Ça me permet justement de réagir à des dossiers comme ça, là, sans passer 4 mois sur
exactement.
Un documentaire.
Ah ouais, c'est extraordinaire. Ouais. Mais tes documentaires, là, je l'ai pas, c'est très bon. Merci beaucoup, Benjamin. Bye. Salut, bye. Benjamin Tremblay, 7 jours sur Terre et Chaque jour sur Terre. Trouvez ça sur YouTube. Une mine d'or d'informations concernant la géopolitique partout autour du globe. On fait une pause. Gary s'en vient.
Willette. En direct.
On revient dans pas long.
Radio X.